Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. J'ai le plaisir de retrouver Françoise Gernot pour une nouvelle émission Osons la philosophie. Bonjour Françoise.
Alors bonjour, bonjour aux lectrices. Et bonjour aux lecteurs, puisqu'il va s'agir de la lecture, de l'expérience, intime ou non, de la lecture.
Intime ou non. Alors, vous aviez depuis longtemps envie de faire une émission sur la lecture, et puis vous avez une sorte de déclic, en fait, en voyant dans une librairie le livre qui vous a incité, en fait, à en parler.
Oui, oui. Alors, bien sûr, j'avais l'intention depuis longtemps de parler de la lecture, et en particulier j'essayais d'esquisser ce que pourrait être, non pas une histoire de la lecture, mais une histoire de l'expérience de la lecture et du livre. Mmh. Voilà. Et puis, effectivement, j'ai rencontré chez mon meilleur libraire,
la librairie Tessier, on peut
la librairie Tessier, la réédition, très récente d'ailleurs, d'un livre de Peter Sandy. C'est un philosophe français, hein, et ce livre s'appelle « Les pouvoirs de la lecture ». Et j'ai trouvé dans ce livre, comment dire, une mise en scène de toute la problématique de la lecture qui m'apparaît très très forte. Mais bien entendu, j'interrogerai ce livre et d'autres livres aussi. Par exemple, je ferai appel d'abord peut-être à la lecture d'un passage célèbre tout de même de Saint-Augustin, dans lequel il s'agit du premier témoignage littéraire et philosophique d'une lecture silencieuse, ou d'une lecture tacite, comme on peut dire aussi, traduite directement du latin.
Alors, vous n'avez pas dit le sous-titre du livre, « Pouvoir de la lecture, de Platon au livre électronique ».
Oui.
Hein, donc, alors, c'est vraiment une...
Oui. Mais là, je vais simplement retenir de ce livre, d'abord son schéma d'interprétation de l'acte de lire, car lire est une action, lire c'est tout, sauf se livrer de manière passive à une œuvre.
Alors, je ne connaissais pas Peter Sandy, merci de nous faire découvrir des philosophes, mais j'ai remarqué dans la quatrième de couverture, c'est la collection La Découverte Poche, qu'il est également musicologue, qu'il a beaucoup écrit sur la musique et le cinéma. Donc il y a une sorte
Oui, bien sûr, mais le thème fondamental de Peter Sandy, c'est la question de l'écoute.
Oui.
Alors là, il s'agit évidemment de penser aussi, en surplus, l'effet d'écoute intérieure de ce que nous lisons. Voilà, et c'est ça vraiment qui est, je trouve, le cœur tout à fait intéressant de son interrogation philosophique. Hein, il s'agit d'un texte philosophique.
Bien sûr.
Voilà. Je voudrais dire d'abord que, effectivement, la lecture nous apparaît comme, de prime abord, hein, comme la lecture silencieuse, bien sûr, comme une expérience véritablement intime, puisque
oui.
nous entendons en nous-mêmes la parole qui s'énonce au fur et à mesure que nous lisons. Mais nous allons voir à quel point la structure de la lecture, avec ses différentes voix, est d'une grande complexité, d'où d'ailleurs mon recours à Sandy, qui est beaucoup plus précis que je ne l'aurais imaginé moi-même ou que je l'avais déjà projeté d'une certaine manière. Voilà.
Alors, j'interviens tout de suite parce que écouter sa voix intérieure, je vous disais hier en préparant cette émission, que moi, je n'ai pas vraiment l'impression d'entendre, d'écouter. J'ai vraiment l'impression de lire. Et c'est une question intéressante, justement.
Oui, alors moi, j'ai tout à fait... Et c'est pourquoi l'expérience est intime. Moi, j'ai tout à fait l'impression d'entendre une voix qui n'est pas tout à fait la mienne, mais qui est aussi la mienne, lorsque je lis en français, et c'est un peu plus énigmatique lorsque je lis dans une langue étrangère. Là, j'ai un effet bizarroïde, où je suis locutrice d'une autre langue. dans mon fort intérieur.
Hein, oui, mais il y a aussi beaucoup de questions qu'on abordera sur les lectures à haute voix, la lecture publique.
Tout à fait, tout à fait.
Et c'est pour ça que je disais qu'il était aussi très cinéphile, parce que moi, si je n'ai pas, j'ai pas l'impression d'avoir une voix intérieure quand je lis, mais par contre, j'ai une multitude d'images qui m'apparaissent.
Oui.
Donc, c'est une expérience tout à fait intime.
Oui. Vous êtes une imaginative et moi, je suis une conceptuelle. Ce n'est pas nouveau. On n'apprend rien de neuf. Bon, alors, je voudrais effectivement commencer par un texte charnière qui est d'Augustin, Saint Augustin, Augustin d'Hippone, qui relate de manière très très subtile une scène de lecture intime, de lecture aphone en quelque sorte, qui est celle de son maître, de celui qui va, de celui qui va vraiment déclencher sa passion pour la foi chrétienne, la foi catholique plutôt. Bon, il s'agit bien sûr de Saint Ambroise. Alors, je vais vous lire d'emblée ce passage. Et après, nous redéploierons justement toute cette scénographie antérieure dès l'Antiquité de la lecture, dont il est simple que nous l'avons aujourd'hui intériorisée. Nous avons déjà commencé par là. Donc, je vous lis Augustin.
Avec plaisir.
Voici la scène relatée par Augustin en langue latine. Je vous rappelle que le livre, Les Confessions, est un livre autour de 399, année de notre ère. Bien. Où en sommes-nous? Eh bien, Augustin est dans les affres, parce qu'il oscille entre sa vieille tradition manichéenne et l'éclair qui lui vient d'Ambroise, Saint Ambroise, évêque de Milan, cet éclair qui est celui de la rigueur catholique. Donc il est dans les affres d'une, et dans les affres, une oscillation entre deux appels mystiques qui se contredisent, et tout se dénouera bien sûr grâce à Ambroise. Alors je lis. Ambroise avait une étrangeté, en tout cas ça apparaît étrange à cette époque, qui était la suivante. Il pratiquait la lecture silencieuse. Hein? Je vous lis. Lisait-il. Ses yeux couraient sur les pages dont son esprit perçait le sens. Mais sa voix et sa langue se reposaient. Souvent, quand je me trouvais là, car sa porte n'était jamais défendue, on entrait sans être annoncé. Je le voyais lisant tout bas et jamais autrement. Augustin de s'interroger sur les raisons. Vous voyez, comme cela n'est pas si naturel, les raisons de cette pratique, puisque notre évêque, l'évêque de Milan, Ambroise, pratiquait cette lecture silencieuse au milieu de la foule. Au milieu de la foule de ses disciples, de ses disciples virtuels, dont Augustin lui-même. Et Augustin s'interroge, pourquoi ? Pourquoi lit-il seul, dans la solitude de son fort intérieur, en quelque sorte, hein ? Et que disait-il à la fin ? Bon, je ne peux pas tout lire. Peut-être évitait-il une lecture à haute voix, de peur qu'un auditeur attentif et captivé ne l'obligeât à propos de quelques passages obscurs, à s'engager dans des explications, à discuter sur de difficiles problèmes et à perdre ainsi une partie du temps destinée aux ouvrages dont il s'était proposé l'examen. Donc tout commence, même dans l'enseignement, dans l'enseignement, tout commence par une lecture tout à fait solitaire et qui engage, au fur et à mesure qu'on lit le livre, on engage sa pensée. Voilà. Et puis, le livre, la première partie des confessions, donc, se termine aussi par une scène de livre. Toujours dans cette perplexité angoissée, Augustin relate la scène suivante. Il est dans un jardin auprès d'un ami, et puis il pleure, flot de larmes. Hein. Toujours chez Augustin, il a le sens et la grâce des larmes. Tout en larmes, il entend ceci. Je disais, et je pleurais dans toute l'amertume de mon cœur broyé, et tout à coup, j'entends une voix partie de la maison voisine, voix de garçon ou de jeune fille, je ne sais, qui chantait et répétait à diverses reprises « Prends, lis, prends, lis. Tolle, legge, tolle, legge. » Je le dis à l'italienne, c'est plus joli. Voilà.
Donc une injonction. Prends le livre et lis.
Alors, je remarque, il s'agit d'une injonction qui vient d'un chant presque angélique, qui semble être un chant d'enfant, garçon ou fille, puère ou puelle, là. Mmh. Hein. Mmh. Ce qui est intéressant, parce qu'on voit bien ici que la voix peut être féminine. Mmh. La voix peut être masculine, mais elle peut être aussi féminine, et d'une certaine manière, c'est une voix angélique. Mmh. Hein. On sent très bien la référence aussi à la Bible hébraïque, avec ces appels de l'ange, en quelque sorte. Voilà. Prends, lis, prends, lis. Donc, il s'agit d'une injonction, en effet, qui entraîne le mouvement de la conversion. La seule interprétation que j'entrevoyais, c'est qu'un ordre divin m'enjoignait d'ouvrir le livre de l'apôtre. Alors, le mot livre, je m'y arrête, le mot livre, c'est le mot codex, codicem, hein, codicem, codicem. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque d'Augustin, déjà, dès les premiers siècles de l'Antiquité, mais là, de la fin de l'Antiquité, 4e siècle après notre ère, déjà, cette pratique d'une certaine lecture tacite existait déjà, en particulier à Rome, mais là, nous y reviendrons, de manière tout à fait discrète. Et d'autre part, la forme, qui est très importante, la forme du support de la lecture, ici, est codex. Le codex, c'est-à-dire le livre tel que nous le connaissons.
Oui, avec les pages.
C'est-à-dire voilà, un livre avec du papyrus. Hein, un livre avec des papyrus qui se succèdent en feuilles. Et c'est bien entendu l'ancêtre du livre dont nous disposons, après le parchemin et après surtout l'invention du papier qui nous vient des Arabes par l'intermédiaire de l'Espagne. Mmh. Voilà. Alors, je dirais un mot tout de même de ces supports, parce que lire un codex ou un livre tel que nous le connaissons, c'est assez différent de lire un volume, un volumen, hein, donc un rouleau. Bien. Le rouleau suppose une technique de lecture qui consiste, comme le mot l'indique, volumen hein, en latin, déroulé. Déroulé. Alors, évidemment, c'est un certain inconvénient, c'est qu'il est très difficile de revenir en arrière ou d'anticiper, ce que nous pouvons faire très facilement. Hein. Donc, effectivement, le livre tel que nous le connaissons est tout à fait pratique. Je dirais quand même un mot du livre
électronique
qui revient, d'une certaine manière,
à dérouler, en fait.
À dérouler. Tout ce scroll,
jamais pensé,
hein, le scrolling, à dérouler le texte. Mais j'espère pouvoir en dire quelques mots ensuite. Alors, vous voyez bien comment ici s'instaure définitivement, progressivement et définitivement, une scénographie de la lecture où un homme seul peut lire au milieu d'une foule et lire, je dirais, intimement. Comme, moi, je pouvais lire, étudier un texte philosophique au café, au bistrot.
Dans le bruit environnant.
Ça ne me gênait pas du tout. Enfin, ça me gênait très peu, très peu. Hein, ça suppose une certaine concentration, évidemment.
Moi, je faisais ça dans le train, dans les allers-retours.
Oui, c'est ça. Mais oui. C'est-à-dire que nous avons aussi cette expérience de lire dans notre intériorité, pour nous-mêmes, au milieu du fracas. Hein, voilà. Alors, maintenant aussi, lire suppose une manière d'être, une manière corporelle. Hein. Lire est une action, c'est une action qui engage aussi le corps.
Le corps.
Alors, je voudrais vous lire un incipit de Italo Calvino, puisque justement, c'est une des références, celle que j'ai privilégiée dans le livre de Sandy. Il s'agit d'un roman sur la lecture, le lecteur et la lectrice, qui s'intitule « Si par une nuit d'hiver, un voyageur ».
Thank you.
Alors sur Radio Alliance Plus, après un intermède avec une rhapsodie hongroise de Litz, puisque Peter Tsendi est français mais d'origine hongroise et parle et lit le hongrois, nous écoutons Françoise Gernot donc lire l'extrait dont vous parliez précédemment avant la musique, hein, c'est-à-dire « C'est par une nuit d'hiver, un voyageur ».
Oui, alors l'incipit est un peu compliqué. Justement, c'est toutes ces virtuosités, enfin c'est toute la virtuosité d'Italo Calvino qui apparaît tout de suite. Tu vas commencer, je lis, tu vas commencer le nouveau roman d'Italo Calvino si, par une nuit d'hiver, un voyageur. Détends-toi, concentre-toi, écarte de toi toute autre pensée. Laisse le monde qui t'entoure s'estomper dans le vague. Plus loin, prends la position la plus confortable, assis, étendu, pelotonné, couché, couché sur le dos, sur un côté, sur le ventre, dans un fauteuil, un sofa, un fauteuil à bascule, une chaise longue, un pouf. Ou dans un hamac, si tu en as un, sur ton lit naturellement, ou dedans. Tu peux aussi te mettre la tête en bas, en position de yoga, en tenant le livre à l'envers, évidemment. Vous saisissez tout l'humour.
Mais on se voit Calvino. Nous-mêmes, on change beaucoup de positions.
Oui, bien sûr, bien sûr. Et encore une fois, que la lecture ne soit pas simplement une opération intellectuelle, mais déjà le déchiffrage, c'est en deçà. De l'intellectualité. Enfin, il faut tout de même lire les lettres. Ouais. Et ce ne sont pas toujours les mêmes lettres, parce que nous avons différents systèmes d'écriture. Hein. Ouais. Je pense par exemple, quand on lit un texte en japonais, par exemple, c'est une autre épreuve, puisqu'il y a, on disait autrefois, des idéogrammes qui ont aussi une valeur phonique, une double valeur phonique. Tout ça est tout de même, ce sont des dispositifs compliqués. Hein. Je ne veux pas parler de l'art de la lecture ou de l'apprentissage de la lecture, qui est une immense question. Si. Mais enfin, la lecture, c'est à la fois une opération intellectuelle, mais c'est aussi un engagement de toute la personne, je dirais corps et âme.
Oui, on ne parlera pas là de comment on apprend à lire et comment on persuade l'enfant de lire.
Bien sûr, bien sûr, oui.
Enfin, l'enfant ou l'adulte, d'ailleurs.
Oui, ce qui m'a alertée, vraiment intéressée dans le livre dont je parle, Pouvoir de la lecture de Peter Tsendi, c'est donc ce qu'il esquisse d'une archéologie de la lecture à partir de l'Antiquité, des Grecs, des Romains bien sûr, et surtout l'analyse qu'il en produit. Tout se passe comme si, selon lui, nous ne faisions en lisant aujourd'hui de cette lecture, je disais intime et personnelle et tacite, hein, tout se passe comme si nous concentrions en nous-mêmes, aujourd'hui, ou depuis peut-être Augustin, hein, toute une scénographie qui apparaissait dans l'Antiquité et dans des scènes de sociabilité. Hein, qu'il s'agisse par exemple d'un dialogue de Platon, hein, où Socrate invite à lire, ou un jeune garçon éperdu d'amour pour son rhéteur, ou bien simplement un esclave. Alors, il y a bien quelqu'un, un personnage qui incite à la lecture. Hein. Et puis, bien sûr, ces scènes de lecture publique, nous les connaissons d'une certaine manière encore aujourd'hui. Et je vais essayer de donner un exemple qui est un exemple télévisé. Alors, comment cela se passait-il? Eh bien, le maître de maison ou le maître de cérémonie demandait à son esclave, il lui formulait l'injonction de lire. Injonction. Hein? Donc il y a quelque chose comme une parole d'autorité qui en quelque sorte déclenche l'obligation pour autrui de lire. Hein? Il y a toujours dans toute lecture une injonction à lire sur laquelle je reviendrai. Et bien sûr, l'esclave, l'ami, qui est souvent un esclave très érotisé par le maître, poursuit la lecture lui-même, sans commentaire. Le commentaire vient après par ceux qui assistent à cette lecture, qui est toujours une lecture prestigieuse, hein, dans une scène d'accueil, dans une scène d'hospitalité, qui est très typique de l'aristocratie, ou bien grecque, ou bien latine. Alors, je rappelle que nous avons à Nîmes, au musée, une toile qui montre Virgile lisant les Géorgiques à Mécène. Hein, donc cette toile qui est très, très célèbre, dont j'oublie l'auteur à l'instant, mais il est très connu de nous. Il
devrait être très connu de nous. Ça illustre ça, le maître, le lecteur et puis les auditeurs.
Alors, nous avons donc trois instances. Mmh. Il y a donc, et là je reprends, et peut-être je vais lire justement, citer Peter Sandy, nous avons trois instances. Nous avons l'auteur, hein, je dirais celui qui intime l'ordre ou suggère la lecture à un second. Et un troisième, c'est celui qui écoute. Alors, je dis entre parenthèses aussi que Peter Sandy est un philosophe qui s'est intéressé à l'écoute, philosophiquement à l'écoute. Il a décortiqué ça aussi bien pour la lecture que auparavant pour l'écoute musicale. Voilà.
Oui, de même que la lecture, l'écoute n'est pas passive. Hein. L'écoute est quelque chose de très... doit être active.
L'écoute doit être active. Alors là aussi, beaucoup de problèmes se posent. Alors, je voudrais simplement vous lire quelques lignes un peu difficiles de Peter Sandy qui justement montrent comment nous avons, dans notre pratique moderne, replié cette scénographie. Mais elle est toujours présente.
Nous sommes les trois en même temps, en fait.
Oui, il y a trois instances, plus une quatrième. Alors, je vais vous lire. Alors, quelques mots un peu conceptuels. Celui qui lit, je disais tout à l'heure, l'esclave, donc dans une situation de domination, hein, dans une situation de domination par le maître. Celui qui lit, en grec, c'est l'anagnoste. Hein, l'anagnoste, donc notre auteur, Sandy, garde le mot grec. Voilà. Et voilà ce qu'il dit. Dans le triangle phonique, triangulation, hein, dans le triangle phonique que forme l'anagoste, ou ses équivalents modernes, lorsqu'il lit ce que quelqu'un a écrit, l'auteur, et m'adresse sa lecture, celui que Sandy appelle le lecteur, hein, le destinataire de la lecture, à moi qui l'écoute, en l'apostrophant de temps en temps, dans ce trio vocal qui se rejoue chaque fois silencieusement moi, l'impératif de lecture introduit une quatrième voix, dont je vais parler plus tard, dont j'ai déjà parlé, dont nous nous apprêtons à ausculter les entrelacs avec les trois autres. Voilà. Elles se mêlent, l'injonction à lire, elles se mêlent à leur texture de manière à la fois tonitruante et inaudible, vociférante et sub-vocalisante. Alors, la sub-vocalisation, c'est la sous-vocalisation qui est la nôtre lorsque nous entendons ce que vous contestez dans votre expérience personnelle lorsque nous lisons. Voilà. Donc, vous voyez bien comment le système de la lecture se diffracte en différents éléments, différentes instances qui entrent en contact ou qui jouent les unes avec les autres.
Et vous disiez que même dans la lecture actuelle, on reprend en fait cette scénographie.
Ah oui, tout à fait. Ça, c'est la thèse de Sandy, elle est très forte. C'est-à-dire, effectivement, bon, moi, j'aurais simplement pensé, puisque je voulais commencer par la lecture d'Augustin, avant toute référence à Sandy, que je connais des livres de lui auparavant, mais pas celui-là. Hein. Et voilà, je voulais commencer de toute façon par cette énigme de la lecture silencieuse qui a été relativement récente. Alors, on a des signes dans l'Antiquité grecque de lecture de ce type, mais bon.
Donc, en fait, cette scénographie antique n'a pas disparu, a pris d'autres formes, et nous cumulons en fait en une seule personne ces trois et même quatre niveaux de...
Oui, mais justement, je pense que à partir de Saint-Augustin, alors là, c'est une réflexion philosophique tout à fait, à partir d'Augustin, justement, et une pensée de la conscience, je crois que nous avons vécu historiquement, au sens très fort du terme, un mouvement d'appropriation, d'intériorisation de dispositifs qui étaient à l'origine extérieurs.
Merci Françoise, et nous nous retrouvons
Je vous
pour
remercie.
Une deuxième émission très bientôt.